Bird Dong Duan.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, en cette émission de rentrée, un court panorama des événements politiques et sociaux qui ont bercé notre quotidien. Mais j'aimerais commencer, c'est une exception, par faire un hommage personnel à un peintre qui nous a quittés et qui était à sa manière un militant.
Le soleil brillerait pour tout le monde. Quant à la Méditerranée, on se donne la main, on fait la ronde. Et chacun peut en profiter. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, le malheur et l'imbécilité, les clochards avec les starlettes. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût, selon comment on le regarde. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût. À Mégève ou sous le pont de Saint-Cloud. Sur la Seine, il y a des bateaux mouches, avec des femmes en décolleté qui rient très haut et font des touches. Et il y a aussi des suicidés. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, le caviar et la vache enragée, la fringale et le coup de fourchette. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût, selon comment on la regarde. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût. Vu par en dessus ou par en dessous. Il y a des murs où au matin blême on met en rang les entêtés. Il y a des murs où au matin blême on assassine la liberté. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, les martyrs et les médaillés, les généraux et les poètes. Moi je dis que l'honneur a pas le même goût, selon comment on le regarde. Moi je dis que l'honneur a pas le même goût, vu par en dessus ou par en dessous.
Pierre Jeudy est né à Vouziers en novembre 1935 dans les Ardennes. Fils d'un ouvrier couvreur et d'une mère au foyer, il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Il arrive à Paris dans le 18e, rue Cavalotti, avec toute sa famille en 1940, mais retournera chaque année dans son petit village à Or, où vit sa famille maternelle. Il se lance dès la fin de son adolescence dans le théâtre amateur, tournera sur des petits théâtres de la région parisienne. Chansonnier, il interprétera avec sa guitare les chansons de Brassens, Brel, Ferré, Fanon et bien d'autres. À cette même période, il rencontre, grâce à ses sœurs, Christiane, qui deviendra sa femme et dont il aura un enfant. Plus tard, il effectuera 27 mois d'armée, dont 14 en Algérie, en tant que sergent dans le génie. Il sera dégradé en public pour une photo où on le voit habillé en militaire, tout sourire, à côté d'un grand-père algérien et de son petit-fils de 7 ans. Déjà attiré par la peinture, les gradés lui demandent de peindre les messes des soldats et des officiers. Ce qu'il fit, de grandes fresques réalistes aux couleurs sable, avec une pointe d'abstraction. Dessinateur industriel dans un bureau d'études pendant 8 ans, il s'ennuie, car le travail de bureau l'enferme. Il décide de tout arrêter et se lance dans la peinture à corps perdu. Il tentera tous les styles, abstraction, surréalisme, réalisme onirique, et toutes les matières, huile, pastel, crayon, fusain, etc. Mais une constance est dans toute son œuvre, la couleur. La couleur, c'est la vie, disait-il souvent. La diversité de son œuvre paraît sans limite, mais il ne sait pas se vendre. C'est un créateur, qui fuit les foules et les honneurs. Sa femme prendra alors le rôle d'attaché de presse et de communication. Il obtient une double licence en histoire de l'art et de lettres modernes en 1970 et se passionnera pour la linguistique tout le restant de sa vie. En 1980, il se lance dans la carte postale moderne et par la suite dans les fèves qu'il crée à l'Unité. Il est un homme secret, honnête et droit, parfois bougon, mais généreux. Athée, écologiste libertaire, il est militant antinucléaire et pacifiste. Il participe aussi dès 90 aux différents groupes de linguistes qui défendent la réforme de l'orthographe avec des sommités comme Masson, Pierre Encrevé et Martinet. Il publiera à compte d'auteur 4 livres poétiques. Il adorait la vie, les livres, les arts et surtout ses petits-enfants. Pierre Jeudy était un père, un frère, un oncle, un ami, un grand-père. Il laissera derrière lui pour la postérité, en dehors des souvenirs, toute la diversité de son œuvre. Il mourut comme il vécut, discrètement. Janvier. Nous ne parlerons pas dans cette émission de la loi sur la déchéance de nationalité ou de l'indignité nationale, ni de l'honneur posthume d'être élevé par Hollande au grade de chevalier de Méfès, Cabu qui détestait les honneurs et les médailles. Pourquoi l'idée n'est-elle pas venue de rendre hommage à un antimilitariste en faisant défiler derrière son cercueil la garde nationale, la gendarmerie en moto, la deuxième division blindée avec fanfare et coups de canon, un foutage de gueule. Février. Pourquoi parler en février de la loi travail qui fut votée avec le 49-3, sans discussion aucune? Loi anti-salarié et pro-patronat. Le PS, parti de droite, a toujours mis tout le monde devant le fait accompli, pour parfois se retracter. Nous entendrons l'émission d'Assez pour le décryptage. Mars. Construire un projet avec tous les acteurs afin qu'il soit acceptable n'est pas dans la génétique du Parti Socialiste. Au PS, on préfère l'amateurisme, crisper d'abord tout le monde, ensuite concerter, et puis parfois reculer. Mais quand le projet n'est pas bon, abandonner est de raison. C'est le cas pour le projet inutile et nuisible, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui devait voir sa première pierre posée. Avril, la routine. Mais nous ne parlerons pas des centrales nucléaires françaises, toutes déglinguées et trop vieilles. On va quand même pas revenir au vélo dans la cave pour allumer le grenier. De toute manière, il faut bien mourir un jour, alors mourons irradiés. Juin. C'est Mission d'Assé qui parle de la remise en cause de 150 ans de lutte sociale le 3 juin 2016.
Le travail n'est pas une marchandise. Et ça, c'est, tu sais ce que c'est? C'est le préambule de la constitution de l'Organisation internationale du travail.
Absolument, je suis d'accord.
Le travail, c'est pas une marchandise. Oui. C'est une ressource humaine. Donc, dans l'économie du contrat, en disant, toi, t'es un employeur, moi, je suis un salarié, qu'est-ce qu'il est dit? Ben, il y a trois fonctions de ce principe. Ce que je te disais, c'est assurer la protection de ta santé, ton corps, hein, pour qu'il y ait un minimum de récupération.
Ton corps et ton esprit, parce qu'il y a aussi
absolument,
pas mal de choses.
Absolument, corps et esprit. Déterminer ta rémunération, et puis c'est à la limite de surorganisation. T'es en congé annuel, on peut pas te dire, t'as posé tes congés, on peut pas dire, monsieur, vous revenez, vous devez travailler demain 12 heures. Non? Hein? C'est des principes. Or, sous prétexte de flexibilité, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour retrouver au nom de la flexibilité du libéralisme, qui est un argument qu'on nous rabâche tout le temps, on dit bah maintenant avec l'article loi du temps de travail au niveau de la loi El Khomri, eh ben la hiérarchie des normes, elle ne s'applique plus. Alors qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes?
C'est pas
qu'elle
s'applique plus, c'est qu'elle est inversée apparemment.
Elle est inversée. Non, elle est inversée. Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes dans l'entreprise? À ton avis, Gilles?
Ah, c'est l'accord de branche ou la convention collective qui faisait loi dans l'entreprise.
Alors déjà, il y a la loi qui est garantie par la Constitution.
Absolument.
Il y a la loi des 35 heures.
Et après, il y a les conventions collectives qui sont.
Et voilà,
la loi
il y a des conventions
branches,
collectives qui disent « Bonjour monsieur, vous avez telle qualification, vous êtes reconnu à telle qualification, voilà. Que vous soyez ouvrier, employé, cadre ou ingénieur, hein, vous avez le droit à telle rémunération minimale. » C'est inscrit. Et ça vaut force de loi. Donc,
et dans les conventions collectives, il y a les échelons, il y a etc.
Absolument,
etc.
absolument, avec le point d'indice, tout comme dans la fonction publique, en disant monsieur vous êtes ingénieur ou monsieur vous êtes cadre.
On ne peut pas vous payer en dessous de ce minimum.
En dessous de ce minimum, et conformément à la loi, et ben comme vous avez 15 ans d'expérience, on est obligé de vous reprendre la moitié de votre expérience. Donc vous avez 100 points d'indice du fait que vous avez 7 ans d'expérience, par exemple. Eh ben, on vous met à 120. Et le point d'indice, c'est une valeur monétaire. Donc, vous aurez tel salaire
mais
minimum.
Mais il n'y a pas que le point d'indice, il y a aussi surtout la durée du travail.
Il y a la durée
du travail,
etc.
Le nombre de repos,
repos minimum, etc.
Tout à fait.
Et alors, évidemment, ces accords de branche, au départ, qui c'est qui pouvait les négocier, ces conventions collectives? C'est les organisations représentatives du personnel.
Les syndicats, ouvriers, patronaux.
Les syndicats, ouvriers, patronaux, qui disaient, voilà, on est par exemple les métallurgistes, On a un point d'indice pour un ouvrier technicien qui vaut, je sais pas moi, 3 euros. Quand on commence dans le métier à temps complet, on est à 600 points, donc 1800 euros brut par exemple. Ça fait 1350 euros net. On peut pas négocier en dessous. Et ensuite, quand on se rend compte, on négocie la valeur du point en disant, ouais, est-ce qu'on peut le mettre à 3,10 €, etc. Oui, mais là, pour leur sup, est-ce qu'au lieu d'être payé 10% de plus que le point d'indice, on peut pas mettre à 20% et tout. Et ben maintenant, avec la loi au El Khomri, article 2, ça c'est terminé. Ça veut dire que des syndicats minoritaires peuvent très bien, dans une entreprise de plus de 50 salariés ou 100 salariés, ou même plus petite entreprise, dire, bah écoutez, le point d'indice, il vaut 3,10 €. Bah nous, on va vous payer 2 euros.
Je t'arrête. Il faut un accord majoritaire, syndicalement majoritaire.
Non, si. Non, si, si. Non, non. Justement, dans la, non, dans l'article du, de la loi M. Khomri, il est dit
version,
plusieurs
alors.
Choses. Voilà, c'est l'inversion des normes.
La première version, peut-être.
La première version, c'est-à-dire que, je t'explique, il y avait au départ un taux de majoration lié au, par exemple, aux heures supplémentaires. C'était la loi de 2008.
Oui.
25%. Et donc, le temps de travail est évidemment une variable centrale du coût du travail, puisque si tu payes, par exemple, 10% au lieu de 25%, tes heures supplémentaires, tu fais des économies en tant que patron.
Et dans la loi, c'était la
et
loi voilà, de 10%.
Et voilà.
Le seuil minimal. Hein.
Et seuil minimal.
Et le reste étant l'appréciation de,
voilà.
de l'entreprise.
Et donc, pour favoriser ça, le salaire minimal horaire et tout, et puis en fonction de l'accord de branche, on pouvait baisser de 25 à 10% le taux des heures sup. C'est pour ça que les routiers sont en grève, parce qu'ils font plein d'heures sup. Donc on leur dit, bonjour, on vous envoie des, on vous enlève des centaines d'euros. En moins sur votre fiche de paye.
Mais le si j'ai bien compris, un des soucis quand même de cette loi, c'est que finalement, bon, heureusement, dans la dernière mouture, ils avaient gardé le principe d'accord par des représentants syndicaux, accord majoritaire de représentants syndicaux. Sauf que, effectivement, comme ça se fait au niveau de l'entreprise, on peut imaginer que les pressions à l'emploi, hein, on va pas s'en cacher, partant de chômage de masse en fait, hein, conduisent leurs représentants, les représentants syndicaux locaux, simplement à céder sous la pression. Et donc le débat à l'Assemblée nationale, c'était de savoir si finalement on pouvait demander à la branche de valider a priori l'accord qui avait été signé par l'entreprise. Et ça veut dire que, validé a priori, alors, est-ce qu'il était contraignant ou pas? Ça s'était laissé en suspens, sauf que les organisations syndicales avaient la possibilité de retirer leur mandatement pour signer cet accord. Et sans mandat des organisations syndicales, l'accord était impossible. Mais, voilà. Après, c'est comme le disait Benoît Hamon, c'est aussi une usine à gaz qu'on va monter, c'est-à-dire on va négocier et puis on va.
Voilà, ouais,
je crois que dans l'accord entreprise, en fait, il faut. Je crois que tu as raison finalement, parce que je crois que j'avais lu qu'il fallait au minimum 30% de la représentation syndicale pour déclencher un référendum entreprise.
Alors ça c'était dans le premier.
C'est là où notre excellente juriste que je vais nommer parce qu'il faut lui rendre hommage, c'est. Une ancienne directrice de la recherche du CNRS, ancienne conseillère à la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'est Madame Marie-Laure Morin. Et là, elle pose bien le problème, parce qu'elle, voilà ce qu'elle dit. Je la cite. Le temps de travail est évidemment une variable centrale du coût du travail. Ben oui. Hein. Si tu fais travail 20 heures par semaine, tu ne fais pas payer que si tu fais 35 heures. Mais c'est le coût du travail en baissant la rémunération des heures supplémentaires ou en ajustant le temps de travail et la rémunération convenue pour préserver l'emploi a évidemment des effets sur le marché du travail parce que ça permet que les entreprises soient en concurrence entre elles.
Les unes entre elles, oui.
Ah ouais,
c'est
ouais.
Une forme de dumping social.
Ouais, mais absolument.
Oui, complètement, ouais.
Donc,
et on va tirer tout le monde vers le bas.
Et en fait, il y a eu la commission Cambrexel qui a fait, c'est une commission avec un...
Le rapport Cambrexel.
Cambrexel, oui. Hein, qui dit, mais attendez, ce dumping social, il faut un salaire minimal horaire, il faut également que les heures supplémentaires soient majorées à minima, hein, 25 à 5. Pourquoi? On va pas embaucher des gens payés trois fois moins parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il dit, bah non. Et là, Bah, qu'est-ce qui se passe avec l'article 2? Ben, le projet franchit le pas, hein, et prévoit qu'un accord d'entreprise, donc dans ma boîte, on peut dire, on peut bosser, on peut baisser le taux.
Le taux horaire finalement.
Taux horaire.
Parce qu'il y a pas que ça. Il y a
des heures supplémentaires.
Il y a bien les heures supplémentaires.
Voilà. Non mais attends. Je poursuis ma démonstration. Parce que c'est là où effectivement tu faisais donc le modèle de hiérarchie des normes. Hein. Donc on en revient au code du travail, à la constitution. Il y a quoi? Il y a un taux horaire minimum et il y a une durée légale du travail. C'est dans l'article 34 de la constitution. Sauf que voilà, eh ben la loi M. Connery dit l'accord d'entreprise peut déterminer les règles du temps de travail et ce n'est qu'à défaut d'accord d'entreprise. Donc l'accord d'entreprise, que les stipulations de l'accord de branche s'appliquent ou à défaut des règles légales supplétives. Donc, avec une minorité de syndicats, pas forcément représentatifs et majoritaires, sur la base d'un référendum, on peut dire aux salariés, vous êtes payé au SMIC horaire et vous travaillez 6 heures par jour. Ah bah maintenant, vous allez travailler 8 heures, ça sera le SMIC horaire légal, mais et ça sera pas considéré comme des heures sup. Ou alors, si c'est des heures sup, maintenant, c'est pas 25% en plus, ça sera que 10%. Et puis, on a fait un référendum.
Il faudrait qu'il y ait un référendum dans ce cas-là. Voilà. Parce que, sur certains sujets.
Absolument.
C'est pas un accord minoritaire de syndicat. C'est une demande, ça peut être une demande syndicale.
Et donc, qu'a demandé le MEDEF? Ça fait 30 ans qu'ils demandent. Bah, ils veulent se libérer de l'accord d'entreprise de la tutelle de la branche. T'imagines, t'as une convention pour les métiers, du travail social. Hein, la convention 66. Et puis on dit, après la convention 66, bon, tel éducateur qui a tel diplôme et puis un minimum, et puis ils disent, bah non, il y aura pas ça. On peut faire en sorte. Et évidemment, le MEDEF réclame ça depuis 30 ans pour déréguler complètement le marché du travail. Et alors, sauf que les petites entreprises, elles en veulent pas. Pourquoi, à ton avis?
Parce qu'elles seront, c'est ça, elles qui vont être défavorisées.
Oui, c'est les premières à être défavorisées.
Les salariés de ces entreprises sont les premières à être défavorisées.
Parce que les sous-traitants derrière, si on leur dit, bah demain, vous baissez vos charges, c'est comme ça et c'est pas autrement et tout, il y a pas de, quand t'as pas au moins 50 salariés, t'as pas de représentant officiel.
Oui, ça pourrait être un levier en fait pour faire pression sur les sous-traitants.
Exactement. Et qui c'est qui crée des emplois en France? C'est les petites et les moyennes entreprises, c'est les premiers pourvoyeurs d'emplois. Donc quand on nous sort, si tu veux, que c'est une loi de compétitivité et de flexibilité qui va améliorer les possibilités économiques de l'emploi en France, c'est un mensonge.
Elle était si jolie.
Juillet, je suis en vacances radio. Comme les profs, super non, faire un break s'imposait. Nous ne parlerons donc pas du coiffeur de Hollande payé une fortune pour 3 cheveux épars. Juillet, c'est les 100 ans du canard, la meilleure façon d'en parler c'est de le lire. En août, c'est le scandale de la dépakine, cet anti-épileptique dangereux pour la santé, un comble. Nous n'en parlerons pas, faut pas fâcher ceux qui nous soignent. Septembre, nous ne parlerons donc pas du partage des richesses, faut pas fâcher ceux qui nous emploient. Mais au niveau solidarité, les super riches sont pratiquement dispensés d'impôts sous Hollande. C'est pas beau ça? Nous ne dirons rien non plus de la grande contestation qui a duré à la République, nuit debout. L'émission Copernic en parle.
Alors commencez par distinguer la politique du politique. La politique, ce sont les partis entre eux qui se disputent sur des choses qui nous intéressent pas beaucoup. Le politique, dans son histoire et dans le concept lui-même, c'est vivre ensemble dans une cité. Donc bien entendu qu'on fait du politique, mais pas de la politique. Ensuite, deux mouvements principaux qui vont l'un avec l'autre, c'est-à-dire comment changer le monde qui nous entoure et comment se changer soi-même. Et ça, en soi, c'est tout à fait politique. Alors, pour vous donner un exemple je parle de la commission à laquelle je suis, parce que c'est ce que je connais mieux, qu'on a mis en place à Debout Éducation Populaire, là, depuis la fin du mois d'août, et donc je pense qu'on en a pour quelques années, vous allez comprendre pourquoi. On s'est dit qu'on en avait marre d'entendre, on est contre ça, que c'est pas en étant contre les choses que les gens vont venir. Donc on s'est dit, eh ben on va faire un atelier hebdomadaire sur aussi large que quelle société veut-on ? Avec pour but de partir vraiment dans un esprit tout à fait utopique, de déplacer nos imaginaires, d'imaginer un monde comme on aimerait qu'il soit, mais sans se dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, on imagine. Là, on est purement dans l'imagination, dans une première étape. Et ça, déjà, ça nous change nous-mêmes d'imaginer ensemble. C'est fondamental. Enfin, je partais encore de l'atelier en venant ici. C'est tous les vendredis soirs, d'ailleurs. Et c'est extraordinaire ce qui peut se passer au sein de cet atelier. Et donc, la deuxième étape de l'atelier, ce sera à partir de là où on en est maintenant, comment on fait pour y arriver. Mais plutôt que de rester enfermé dans les pensées qu'on a, ce qui est, allez, il y a quelques intellectuels qui nous proposent d'autres choses, mais finalement on prend toujours les choses d'ailleurs, de gens qui nous disent comment est-ce qu'il faudrait penser, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour les autres. Là, on essaye nous-mêmes de déplacer ce qu'il y a dans nos esprits, et ensemble, parce que ça on pourrait pas le faire tout seul chez soi, hein, c'est ça qui est fondamental. Et une fois qu'on aura déplacé nos esprits, eh ben on dira, bon, comment on fait pour arriver à ce qu'on imagine possible? Ça, c'est ça le possible, c'est... Enfin, oui, l'impossible, c'est ce qui n'est pas encore possible, plutôt.
Donc, on retient que le mouvement fait du politique. Voilà, Sophie.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire très justement Adèle, moi, il y a une phrase d'Oscar Wilde qui me guide, c'est « La sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. » Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que nous, en tant que citoyens, on a le droit d'avoir nos utopies, nos rêves et d'avoir envie de changer le monde. Je veux dire, pourquoi on serait soumis à ce monde-là qu'on nous impose, que les multinationales nous imposent, que les politicards nous imposent, et puis que nous, en tant que citoyens, on nous laisse juste le droit de mettre un pauvre bulletin de vote, et voilà, on a plus que nos yeux pour pleurer, on commence tous à être atterrés. D'ailleurs, la preuve, tous les jours, on entend des gens dire qu'ils vont plus voter, qu'ils savent que ça sert à rien depuis des années, etc. Donc nous, on a ce rêve-là de dire aux gens, mais venez, nous, on a envie de faire du politique et de se réapproprier ce pouvoir-là. Et justement, il y a une autre action très forte qui a eu lieu cet été. Le 4 août, il y a une marche qui est arrivée sur Paris, qui est partie de Marseille le 18 juin. Ils ont marché quand même pendant plus de 40 jours. Ils ont fait 915 kilomètres à pied. Ils sont partis des Nuits debout de Marseille et à Aix en Provence. Et je les salue, les copains, et je les embrasse très fort parce qu'on les a accueillis à Paris. Ils ont fait plein de villes debout pendant tout l'été et ils avaient comme but donc de marcher pour la démocratie, pour la justice, pour la paix. Et ils sont arrivés à Paris hyper boostés par leur exploit et surtout plein d'espoir et avec cette envie de changer le monde. Et avec l'envie, les revendications, c'était abrogation de la loi travail, c'était on veut une nouvelle république, on veut une sixième république avec les citoyens au pouvoir, on veut appeler tous les gens à nous retrouver pour construire ce projet-là. On n'a pas les clés, on n'a pas de programme, mais on veut dire aux gens, venez avec nous et faisons cette nouvelle république ensemble, nous les citoyens. Et les politicards, on n'en veut plus. C'est tout. Les partis, on sait que le système hiérarchique de partis avec un boss à la tête, ça ne marche plus. En 2016, ça ne marche plus. Et c'est contre tout ce monde-là qu'on se révolte, en fait.
Et on voit bien la posture des politiques par rapport à cette thématique qui est souvent assez limitative. Je ne citerai pas l'exemple de Sarkozy qui parlait de personnes sans cerveau qui n'avaient pas de leçons à donner.
Bien sûr, on est bête.
Juste pour rebondir sur cette marche, parce que j'en ai fait partie pendant 12 jours, j'ai rejoint les marcheurs à Auxerre. Et là encore, pour enlever des choses qu'on s'imagine, il n'y a pas de solidarité parmi les Français, etc. Mais bien sûr qu'il y a énormément de solidarité. Les gens sont... Quand ils voient quelque chose se passe, mais ils y vont, ils viennent, et ils s'intéressent, ils sont prêts à nous aider, à tout faire. Et là encore une fois, quand on disait tout à l'heure les actions, voilà, cette marche en elle-même, c'est une action, parce que les gens voient des personnes marcher pour quelque chose. Il faut arrêter de... très souvent, on nous dit « Nuit debout, ça va donner quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vers où ?» Mais on est là, rien que le fait d'être là, en soi, c'est une action. Et ça produit des choses. Je crois que c'est vraiment fondamental à rappeler.
Tonken, tu voulais...
Ouais, du coup, moi, c'était juste pour dire que c'est vrai que dans la Nuit debout, on constate... il y a une sorte de décalage qui fait qu'on ne sait pas trop si c'est du politique ou de la politique. Et parce que c'est aussi des endroits où on peut repenser les choses, en fait. On peut repenser comment se passe une assemblée, comment on peut se parler entre nous, etc. Changer un peu les valeurs qui font la politique ou du politique. Par exemple, évacuer un peu la question du pouvoir pour se recentrer sur des choses un peu plus de l'ordre de la bienveillance, de l'écoute, de la présence, etc., de la solidarité, enfin, des choses, enfin, qui ont complètement disparu du langage, enfin, même de l'imaginaire du politique, si on écoute ce qui se fait, enfin, justement, dans une approche un peu plus hiérarchique, quoi.
Alors, je vais poser une question à tous les quatre. Vous prendrez la parole qui veut. C'était finalement aujourd'hui on en est. Enfin, quelle mobilisation actuellement, puisque enfin en tant que citoyen habitant de Paris, j'ai vu énormément de monde sur la place de la République jusqu'en juin, juillet. Et il s'avère, bon, voilà, on a senti un peu, même en tant que Parisien, un essoufflement de cette place. Donc voilà, je voulais juste poser la question, quelle mobilisation? Et puis surtout, j'entendais parler, enfin le terme atelier perspectif a été cité. Quelle perspective pour cette future mobilisation? Alors, au choix, je...
Non, bah, sur cet été, en fait, le mouvement n'est jamais vraiment mort, en réalité. Il a été que... disons en veille et déplacé. Pendant l'été, on a recentré énormément. Bon, déjà, il y avait tout un aspect logistique qui nous avait quand même assez épuisé, il faut l'avouer. Et où on s'est dit pendant l'été, on va peut-être pas s'embêter à avoir une telle logistique pour le faire. Il y a aussi que les policiers nous embêtaient beaucoup moins aussi, donc on pouvait se réunir sans déclarer, etc. C'était quand même plus léger, donc on l'a pris un peu plus cool. Après, on a recentré aussi beaucoup les actions autour de la solidarité avec les migrants à Stalingrad. Donc, la cantine a très vite, en fait, souvent, voilà, il y a des commissions comme ça qui, quand elles étaient sur la place, centralisaient une certaine population et faisaient que du coup, les gens convergeaient autour de ça. Et là, on les a déplacés ailleurs. Là.
S'il te plaît, tu n'as pas pu tout oublier. Je n'ai pas pu tout inventer.
Octobre. Nous ne parlerons pas non plus du CETA, TAFTA et autres faux enterrements. L'émission d'attaque le fera bien mieux que moi.
Pourquoi ces gens qui, jusqu'à présent, ont été des fervents partisans du libre-échange, subitement trouvent que le TAFTA, c'est pas un bon accord?
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect côté États-Unis. Il y a des mobilisations extrêmement fortes aux États-Unis. Et ça fait 20 ans que les États-Unis connaissent l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et alors qu'il y a 20 ans, le président Clinton promettait des millions d'emplois et de bons emplois américains, 20 ans plus tard et 1 million d'emplois détruits, déstructuration aussi de l'économie mexicaine, tout ça amène aux gens qui soutiennent le libre-échange aux États-Unis à être beaucoup plus discrets. Alors ici, en Europe, les choses sont un petit peu différentes. C'est qu'il y a, enfin un petit peu différentes, pas vraiment en fait. C'est qu'il y a aussi des mobilisations tout à fait considérables. Et il y a eu plus de 3 millions de signatures qui ont été obtenues en un an contre le TAFTA. Il y a 2000 collectivités territoriales qui se sont prononcées contre le TAFTA. Donc il commence à y avoir un peu le feu au lac. Mais on a quand même, de la part du gouvernement et de la Commission, non pas des opposants au libre-échange, mais des gens qui se disent « on va changer le fusil d'épaule et on va aller vers un autre accord » qui est un accord de libre-échange qui fait aujourd'hui, enfin espère-t-il, moins peur, qui est l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Et là, ils font tout pour essayer de le promouvoir, alors que l'accord entre l'Union européenne et le Canada est au moins aussi dangereux que le TAFTA et qu'en tous les cas, il porte exactement les mêmes dispositifs que ceux qui sont prévus dans le TAFTA.
Oui, parce que la présentation qui a été faite, c'est que le TAFTA serait un mauvais accord et le CETA, l'accord avec le Canada, serait un bon accord. Et on l'a même appelé l'anti-TAFTA.
C'est le ministre Fekl qui est très inspiré sur la question et qui, il faut le dire, ne manque pas d'air. Parce que, en fait, nous assistons à quelque chose d'assez grave qui est une opération d'enfumage et de maquillage assez systématique, voire complètement systématique de la part du gouvernement et de la Commission pour essayer de nous faire passer des vessies pour des lanternes.
Alors, justement, est-ce que tu peux résumer, si c'est possible, cet accord de libre-échange. Quels sont les principes de cet accord de libre-échange?
Alors d'abord, le CETA, l'accord Union européenne-Canada, est un accord de libéralisation. C'est-à-dire, c'est un accord qui met en place ce qu'on appelle des disciplines, dans le jargon de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire dans le jargon du libre-échange, et qui met en place ce qu'on appelle une ouverture totale des marchés, ou pratiquement totale des marchés, et un accès des entreprises transnationales étrangères sur les territoires pour pouvoir prester un certain nombre de services ou pour pouvoir vendre un certain nombre de marchandises. Cet accord de libéralisation, il passe par la mise en place d'un certain nombre de principes, c'est-à-dire ouverture des marchés, interdiction des mesures distorsives au commerce, c'est-à-dire des mesures qui peuvent avoir une conséquence sur le libre-échange, c'est-à-dire le commerce libre et non faussé, enfin la concurrence libre et non faussée, voilà. Et puis qui met en place les principes comme le traitement national. Le traitement national, c'est le fait que toutes les entreprises sont traitées de la même manière, quelle que soit leur nationalité. Ce qui veut dire que demain, dans la mesure où le TAFTA ouvre le secteur de l'éducation, le secteur de l'éducation. Eh bien, ça voudra dire qu'une entreprise d'éducation supérieure ou autre, va pouvoir s'installer en Europe et par exemple en France, et au nom du traitement national recevoir exactement les mêmes types de subventions que reçoit l'opérateur ou les opérateurs déjà présents, éducation nationale, école privée. Ce qui veut dire à terme que devant cette ampleur de devoir faire face aux subventions demandées, l'État va être obligé de se retirer et on vérifiera qu'une fois de plus, la libéralisation est le prélude à la privatisation. Ça, c'est le premier point, je dirais, c'est un accord de libéralisation. C'est un accord de libéralisation et c'est un accord aussi qui prévoit l'augmentation de l'importation d'un certain nombre de produits, comme par exemple des produits agricoles, ce qui va déstabiliser considérablement les filières agricoles, notamment de l'élevage, puisque là, le CETA prévoit notamment dans son annexe 2 une augmentation des importations de bœufs, des importations de porcs, dans des proportions qui ne sont pas tellement importantes, mais qui sont suffisantes pour déstabiliser une économie, enfin des filières. Mais aussi, ce sont des accords, et c'est là où vraiment on peut parler d'enfumage et de scandale, c'est un accord qui prévoit deux mécanismes qui sont le mécanisme de règlement des différents investisseurs État et le mécanisme de coopération réglementaire. Et là où on assiste...
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que sont ces deux mécanismes? Parce que c'est un peu technique. Le premier, par exemple, le mécanisme de règlement des différents États investisseurs.
Alors, en fait, c'est un truc assez simple. C'est l'idée qu'une entreprise transnationale siffle dans ses doigts, convoque à sa table un État et lui dit « Vous avez pris des réglementations internes qui vont à l'encontre de mes bénéfices escomptés. C'est une mesure distorsive au commerce. En conséquence de quoi, je vous demande la réparation, c'est-à-dire je vous demande de me verser l'argent qui correspond aux bénéfices que je n'ai pas eus. » C'est assez hallucinant, mais c'est ça. Et par exemple, je trouve l'exemple le plus pédagogique qui ait eu lieu, qui puisse être donné, c'est celui de Veolia, qui en Égypte a un marché de traitement des ordures ménagères, et qu'il s'est trouvé qu'en Égypte, il y a eu le printemps arabe qui a augmenté les salaires minimums des gens. Eh bien, ce qu'a fait Veolia, c'est qu'elle a dit, voilà, j'avais l'espoir d'avoir tant de millions de bénéfices, je vais devoir payer les gens un petit peu plus cher parce que le salaire minimum est augmenté, je présente la facture à l'État égyptien. Et je ne présente pas la facture à l'État égyptien comme ça. Je présente la facture à travers un mécanisme. Je présente la facture donc à travers un mécanisme d'arbitrage. C'est-à-dire, je demande à des avocats internationaux privés condamner l'État à payer le bénéfice escompté que n'a pas obtenu l'entreprise. Je ne sais pas si je
donc,
suis clair.
Donc finalement, cet accord crée une espèce de justice internationale. C'est plutôt un point positif, non, de créer des tribunaux internationaux qui vont gérer et qui vont régler les différends en matière de commerce international.
Ce ne sont pas des tribunaux internationaux, ce sont des organismes d'arbitrage. C'est très différent. Il ne s'agit pas de magistrats, il s'agit d'avocats internationaux qui, comme tous les avocats, ont des clients et qui un jour ont tel client, le lendemain ont tel autre client, le jour d'après ont le client suivant et ensuite tranchent dans une affaire qui oppose une entreprise qui a pu être un de leurs clients et un État. Et donc en fait, le mécanisme d'arbitrage porte en lui-même le conflit d'intérêts. Mais... Et ce sont à ces arbitres, entre guillemets, internationaux, c'est-à-dire à ces avocats internationaux, qu'on demande de se substituer au juge, parce que le juge, il existe, il y en a un dans chaque pays, et on demande de se substituer à lui pour amener à une condamnation d'un État sur une mesure d'ordre public, y compris de protection, y compris une mesure de une décision politique qu'a pris l'État. Et, pardon, vous aviez une question ?
Oui, un des articles de l'accord stipule que les membres de cette instance d'arbitrage sont indépendants, qui ne reçoivent d'instructions ni d'organisation extérieure, ni de gouvernement, et qui ne doivent pas se prononcer sur un cas lorsqu'un conflit d'intérêt direct ou indirect est déclaré. Donc il y a une certaine éthique qui semble préservée dans l'accord.
Vous n'avez pas lu l'article 830 dont vous parlez jusqu'au bout. L'article 830, il dit ça dans le premier alinéa. Il en aurait fallu un second alinéa qui prévoit des sanctions. Et vous ne l'avez pas trouvé, cet alinéa, parce qu'il n'existe pas. Donc une éthique qui est basée uniquement sur le volontariat, ce n'est pas une éthique.
J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu. Ne le laisse pas se perdre à la ronde.
Novembre. Pas de commentaires non plus dans cette émission sur le service public pressuré par le fric. Nous savons nous tenir dans cette émission. Écoutons l'émission Mode d'emploi tenue par Secret de Fabrication.
On va passer la parole à Olivier. Donc Olivier, tu es militant, tu es postier, militant sud dans les Hauts-de-Seine, c'est ça, hein, tu...
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Et tu vois un parallélisme avec la situation dans l'hôpital, cette intensification du travail, parfois jusqu'au désespoir, quoi. Ça te parle ?
Moi, je dirais qu'en fait, on est sur les mêmes questions. En gros, depuis des années, je pense que la plupart des services publics, y compris les anciennes administrations qui sont aujourd'hui des boîtes publiques comme La Poste, hein, qui est une ESA détenue par l'État, la Caisse des dépôts, entre autres. Mm-hmm. En gros, il n'y a qu'une politique qui est menée depuis, et c'est pas d'hier, hein, c'est simplement supprimer du personnel pour faire absorber une charge de travail qui ne baisse pas. Ce qui occasionne évidemment une surcharge de travail pour les agents, qu'ils soient postiers, hospitaliers, j'imagine qu'au Trésor et dans toutes les autres administrations ou boîtes publiques, c'est du même tonneau. Voilà, évidemment, ça génère une souffrance au travail qui est très dure, avec ce qu'a dit la collègue, hein, une modification des plannings, des jours de repos. Voilà, par exemple, nous à La Poste, je vais parler du dégraissage, hein, ça se sait peu, par exemple. En 2002, il y avait 323 000 agents à La Poste. On était 323 000 en 2002. Aujourd'hui, on est 226 000. C'est un rapport social. C'est le rapport social qui est tombé en juin dernier, qui fait l'état donc du dégraissage sur 2015. On est sur un rythme d'environ 7 à 10 000 suppressions d'emplois par an. Suppressions d'emplois qui se passent principalement par des départs non remplacés. des départs à la retraite non remplacés, ou également beaucoup, et ce qu'on voit apparaître, beaucoup de disciplines, c'est-à-dire des licenciements disciplinaires qui en fait ne font que déguiser un plan social. En gros, pour donner un petit volume d'idées, une petite idée du volume, on est sur environ 1 000 000 de suppressions d'emplois par an, c'est-à-dire quasiment un Continental clairois tous les mois. Mmh. Alors évidemment, ça n'a pas l'aspect spectaculaire d'une usine Goodyear Amiens qui ferme ou d'une usine Continental clairois qui ferme. Par contre, les conséquences sociales, enfin, vous rendez compte, 100 000 emplois qui ont jarté de la carte, mmh, sachant que tous les services publics, quand on entend 22 000 suppressions d'emplois prévues...
2017, hein.
Voilà.
3 milliards d'économies d'euros. Hein.
Voilà, la SNEF qui fait pareil, avec des volumes, je crois, légèrement moins élevés, mais qui malgré tout dégraisse dans tous les services qu'elle peut, avec la sous-traitance qui arrive. Donc, les conséquences, bah, évidemment, voilà, ça fait... une surcharge de travail pour les personnels, un mal-vivre. Ça se traduit aussi par un durcissement managérial, c'est-à-dire qu'auparavant, on réussissait un petit peu à discuter avec l'encadrement, avec les chefs d'équipe, avec les directeurs. Aujourd'hui, ce sont juste des gens qui sont là pour appliquer la ligne politique de la boîte. Je parle de La Poste, mais je pense que c'est à peu près partout pareil. Voilà. Et je pense que c'est également toutes les grosses boîtes.
C'est des bras armés des tutelles.
Voilà.
Hein.
Voilà. Et donc, voilà, ben, vous imaginez bien quand on crée autant d'emplois, voilà, La Poste génère du chômage de masse. Après, dans la société, quand on voit les jeunes qui ne trouvent pas de taf, qui galèrent de stage où ils n'auront jamais, et La Poste est spécialisée aussi, où ils n'auront jamais un CDI à la fin, on se demande, ah mais oui, mais pourquoi il y a de la violence et de la délinquance? Mais évidemment, quand on précarise à cette échelle la population, quand on crée un chômage de masse de ce volume, c'est évident qu'il va y avoir des problèmes dans la société.
Et donc, si on, effectivement, donc, ça génère des problèmes dans toute la société. On voit bien que cette espèce d'incapacité du service public à jouer son rôle, qui était aussi d'absorber, d'absorber une partie des générations entrantes sur le marché du travail. Pas tout, mais une partie, et qui permettait justement, y compris pour le marché global du travail, de s'alléger, en fait, tout simplement, et devenir meilleur et moins de chômage. Mais, y compris, donc, pour ceux qui restent, et là, on revient sur la question de ceux qui restent, c'est-à-dire que tous ceux qui sont aujourd'hui à La Poste, les postiers, les salariés, donc, de cette toute nouvelle SA, se retrouvent en état de surcharge permanente et en état de ils sont cramés, quoi. Enfin, ils sont très vite cramés, non?
Ben, concrètement, on prend un bureau de distribution, voilà, ouais. Vous avez un bureau de distribution, il y a 56 tournées, ben, tous les deux ans, il y a une réorg, voilà, ben, ça passe à 48, ensuite ça passe à 42. Donc, forcément, le trafic baisse légèrement, quoique c'est contestable, parce qu'il y a de nouveaux services qui apparaissent, hein. On nous demande d'aller vendre des catalogues, enfin de faire du démarchage commercial, faire des catalogues, faire divers services. Il y a Croquetéo, hein, c'est pas le nom, mais ça veut dire aller nourrir le chien, des trucs comme ça, surveiller les personnes âgées, des trucs comme ça qui sont des contrats que veut faire conclure La Poste au public. Voilà, quelque chose qui était tout simple.
Surveiller les personnes âgées.
Par exemple, quelque chose qui était tout simple. Justement, ça te choque et c'est normal. Et c'est normal. Parce qu'auparavant, il était normal, le facteur, il avait son temps sur sa tournée, voilà, il distribuait son courrier normalement, il parlait également avec ses usagers. Je dis usagers, c'est des gens normaux, c'est des gens comme vous et moi, donc il parlait avec les gens. Voilà. Or là, avec les contraintes de travail, avec la surcharge de travail, la plupart des gens n'ont plus le temps de le faire. Du coup, en gros, ça galope. Ce petit lien social disparaît de plus en plus, et La Poste s'est dit, tiens, bonne idée, ce qu'on faisait avant à l'œil parce que les gens avaient le temps, on va le facturer. C'est, je sais pas comment s'appelle le service, c'est un service pour surveiller les personnes âgées, si ça se passe bien chez elles. Il y a un nombre de passages hebdomadaires suivant le contrat, hein. C'est, après il y a des niveaux de prestations, voilà.
Et juste vas-y, je te demanderai après.
Moi je vais parler un petit peu de la souffrance au travail. On a beaucoup parlé des suicides qu'il y a eu à La Poste, et il y en a eu une bonne quantité, en effet, qui ont été assez médiatisés, dont certains où les agents qui se foutaient en l'air incriminaient carrément leur employeur de les avoir mis dans ces situations. Et moi, je vais faire un petit peu le lien avec les luttes. Voilà. Parce que justement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en gros, ben voilà, ça pète pas le feu partout. Malgré tout, La Poste, c'est quand même encore une boîte où il y a beaucoup de conflictualité. Tous les deux jours, il y a un site en grève sur le territoire à La Poste. Voilà. C'est-à-dire que la boîte fait tellement de réorg, ça cache tellement l'emploi, attaque tellement les conditions de travail des agents, que forcément, fatalement, ça crée des réactions du personnel. Voilà. Et en gros, ce qu'on voyait, c'est qu'on est un petit peu dans une queue de comète où, à une époque, il y avait une grosse combativité ouvrière. Et en fait, les centres de distribution, les centres de tri étaient ce qu'on pouvait qualifier, allez, grosso modo, de bastions ouvriers. Bastions rouges, allez, si on veut. Hop. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Ce qui fait que, par exemple, l'employeur arrive de plus en plus à faire passer sa politique où il ilote les agents, c'est-à-dire il crée sur un site de travail d'une centaine de personnes, il va y réussir à séparer les gens. Il y aura les questions des promotions, tout ça. En gros, et donc il y a beaucoup moins de réactivité ouvrière, de réactivité syndicale. Et en gros, évidemment, dans ce contexte, il y a des gens qui peuvent se sentir isolés. Par exemple, si vous approchez de la cinquantaine, que vous avez une réorgue, on va vous faire comprendre qu'il est temps de prendre un je vais dire TPS, mais ça parlera pas aux gens, une pré-retraite aidée. Voilà. Et on va faire le comprendre, mais des fois un peu salement.
En insistant.
Et salement, c'est-à-dire qu'on va faire des crasses sur une réorgue. Un ancien qui avait sa tournée depuis 12 ans ou 15 ans, on va lui exploser sa tournée. Pour bien qu'il comprenne qu'il doit jarter, qu'il doit demander son TPS. Mmh. Dans ces situations-là, en absence ou en manque de collectifs ouvriers forts, soudés, capables de répondre collectivement à l'employeur, les gens peuvent se sentir seuls, démunis. Et parce qu'on a souvent le débat aussi sur le suicide, est-ce que c'est la boîte, est-ce que c'est sa vie perso. Un individu, il est un et unique. Hein. Il n'est pas, saucissonné. Il n'est pas saucissonné le matin entre ses activités de tri-distribution. Mmh. Et après, l'après-midi, c'est quelqu'un d'autre. Mmh. Il est évident que ce qu'il vit dans sa vie privée aura un impact sur son taf. Et ce qu'il vit à son taf aura un impact ensuite sur sa vie privée. Mmh. Un individu est un. Voilà. Et c'est évident que toute cette recrudescence de suicide est dû à des situations où justement on manque de collectifs dans les centres et des gens isolés se sentent de plus en plus seuls.
Décembre, c'est Noël et surtout, ce qui est moins drôle, la mort de mon père. J'en parlais au début de l'émission. Je dédie donc cette émission à mon père et ma mère qui m'ont tant donné.
Une rue qui monte et zigzague, un petit café tout là-haut, juste à côté du terrain vague où fut assassiné Pierrot. Ça faisait louche à la nuit noire, ce bistrot au fond d'un jardin. On s'en fichait, on venait boire. Et le patron chantait si bien. Frédé, joue-moi sur ta guitare la belle chanson que tu sais. Mais oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je me sens le cœur lourd. J'ai besoin de chansons d'amour.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission Humeur de début d'année. D'ailleurs, je souhaite aux feignants, aux crasseux, aux drogués, aux alcooliques une très bonne année. Aux PD, aux femmes, aux parasites, aux jeunes, aux vieux, aux artistes, aux tolards, aux guines, aux apprentis, aux noirs, aux piétons, aux arabes, aux français, une très bonne année. Je souhaite aux chevelus, aux fous, aux travestis, aux anciens communistes, aux abstentionnistes, convaincus, aux anarchistes, aux gauchistes de tout poil, une très bonne année. Je souhaite aussi à toutes les auditrices, quel que soit leur âge, leur nationalité, aux auditeurs également, aux animateurs et animatrices de fréquences Paris Pluriel, une très bonne année. Cette émission se termine. Très très gros bisous par milliers aux filles. Et grosse poignée de main aux garçons. Restez insoumis, vigilants et surtout ne lâchez rien. Salut.
Les chansons de salle de garde ont toujours été de mon goût. Et je suis bien malheureux car de nos jours on n'en crée plus beaucoup. Pour ajouter au patrimoine folklorique des carabins, folklorique des carabins.